Do you think that any type of conventional psychoanalysis or not conventional, radical psychoanalysis cannot deal with micro class struggle that you said? Never. Do you think so?
Je comprends pas votre question. I don't understand the question.
Do you think any type of existed psychoanalysis theory cannot deal with, cannot analyze micro class struggle?
Moi je constate qu'effectivement toutes les techniques psychosociologiques, toutes les techniques américaines de gestalt thérapie, toutes les techniques de psychanalyse de groupe, etc. Et aussi l'immense expansion aujourd'hui des techniques de thérapie familiale évite les problèmes micro-sociaux, les problèmes micro-politiques. Cependant, je dois dire que au sein des courants de thérapie familiale existe ce qu'on appelle des pratiques de réseau, network practice, qui s'efforcent de poser ce problème. Et là, vous avez un praticien, qui est en même temps un théoricien, qui est Moni El-Kaïm, un psychiatre belge qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, et qui est l'animateur du réseau international d'alternatives à la psychiatrie, qui essaye de montrer qu'on peut faire une thérapie familiale compatible avec les luttes de quartier, avec les problèmes qui se posent dans les institutions concrètes, etc. C'est un courant très prometteur, mais c'est encore un embryon. C'est encore tout à fait à l'état naissant. Moi-même, j'ai participé à différentes rencontres, à différents congrès, y compris en Amérique latine, sur ces thèmes-là. Mais aujourd'hui, la plupart des théories, des techniques continuent de poser une sorte de division, quoi, de division entre le champ social et le champ libidinal. Et ça, même les plus grands théoriciens, comme Reich ou comme Mark Hughes, ont continué de considérer que, au fond, l'économie politique et l'économie libidinale, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même registre. Pour moi, je considère que, au contraire, l'économie politique et l'économie libidinale entretiennent des rapports constants d'interaction, des rapports de rhizome. Et ça, l'évolution actuelle de la masse médiatisation, de l'informatisation, de la télématisation, nous montre constamment qu'aujourd'hui, la production, le travail sont liés sans arrêt à ces questions de manipulation et de production de subjectivité. Le travail, aujourd'hui, il tend à être totalement mass-médiatisé, informatisé, télématisé, et donc les problèmes de subjectivation se posent constamment au sein même du procès de production. Et on ne peut donc pas faire la séparation.
So that, for instance, Franz Kafka is much more better than...
Franz Kafka?
Kafka is much more better than so-called psychoanalysis.
Sure. Évidemment, parce que... prenons un seul exemple de Kafka, où on voit la lucidité d'un grand, entre guillemets, pour rire, schizoanalyste. C'est que Kafka, avant la naissance du nazisme et du stalinisme, du nazisme, du hitlérisme et du stalinisme, a compris ce qu'était la mutation de la bureaucratie. Il a compris qu'il y avait une rupture entre les vieilles bureaucraties, comme celles qui existaient dans l'Empire austro-hongrois, et les nouvelles bureaucraties technocratiques. Il était lui-même, travaillait lui-même dans une société d'assurance, en fin de compte, dans une sorte de sécurité sociale, quoi. Et il était beaucoup intéressé par les appareils, les machines à calculer, les proto-machines informatiques. Et il était fasciné par la transformation des individus en rouage informatique, en bureaucrate de type nouveau. Et il n'en a pas fait de théorie, mais il en a eu l'intuition, la sensibilité, beaucoup mieux que tous les théoriciens de son époque.
Except Kafka, whom you were interested in literature, literary author. Except Franz Kafka, whom you are interested in the field of literature.
About Jane Joyce, Samuel Beckett.
But for you, Franz Kafka is special, I feel.
For me, Franz Kafka is like a master. Franz Kafka, c'est un auteur qui m'a appris. C'est comme un grand philosophe. Franz Kafka, pour moi, c'est comme Freud ou Marx. J'ai compris des choses pour moi essentielles, comme les devenir animaux, les devenir machines, les devenir invisibles, en lisant Kafka, pas en lisant Freud. Il y a des grands auteurs comme ça qui sont tout à la fois des romanciers, des philosophes, des politiciens. Kafka aussi est une sorte de militant, ou Antonin Artaud. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas laisser certains auteurs dans des catégories comme ça, roman, littérature, philosophie, politique. Quoi.
Very interesting.
Would you tell J'allais me... dire, je me suis retenu de dire quelque chose que je dis quand même. Kafka, pour moi, c'est comme un ami. Absurde. C'est comme un frère, comme un copain, il vit pour moi. Quelquefois, devant certains problèmes, je me dis qu'est-ce que pense Kafka. Pour moi, Kafka, c'est une machine vivante, une machine abstraite qui continue de vivre. Un auteur, il survit tant qu'il continue de fonctionner. Le drame, c'est quand on continue de vouloir faire fonctionner un auteur qui ne peut plus fonctionner. Dans certaines situations, Marx ou Freud ne peuvent pas fonctionner. C'est donc pas la peine de continuer de vouloir les transformer, les adapter. C'est comme des vieilles machines qui sur ce domaine précis ne fonctionnent pas. Ce qui ne veut pas dire que Freud et Marx, pour certains domaines, ne fonctionnent pas. Et ils sont pas non plus des Deus ex machina qui vont être adaptés à toutes les nouvelles situations. Mais certains auteurs, comme Kafka, résistent particulièrement bien, par contre. Je crois qu'il a encore beaucoup, beaucoup à nous apprendre, Kafka.
You began to read Franz Kafka earlier than Marx and Freud.
What do you say?
You read Franz Kafka earlier than...
In the same time.
In the same time.
Yes. Mm.
When?
Oh, when I was 18.
I see. At the time, the existentialism is flourishing.
No. I'm born in 1930.
It's over.
Très puissant.
Yeah.
Existentialiste. Mm-hmm. Moi, j'avais 18 ans en 48.
Yeah.
1948.
Yeah.
It was a very strong period for Sartre. Existentialiste.
I see. Would you tell me about your present commitment to the psychoanalysis? How do you have a commitment to the psychoanalysis? You still belong to the La Borde?
I work.
Yeah.
Je travaille à La Borde.
Yeah.
En quart de temps, environ. Quinzaine d'heures par semaine. Quoi. j'ai évidemment rompu totalement avec l'école freudienne, qui d'ailleurs a éclaté totalement. C'est la plus bonne chose que l'école freudienne ait fait, c'est de finir comme elle a fini, parce qu'au moins c'est une chose drôle. Je suis toujours en rapport avec un certain nombre de psychanalyses, je fais un séminaire, disons, de schizoanalyse avec un certain nombre d'analystes. J'ai continué et repris une pratique d'analyse, mais dans ma propre perspective, disons, dans ma propre perspective de schizoanalyse. Très très différente de ce que je pensais, de ce que je faisais avant.
I think you told something like that before. Revolutionaries should model their action on the schizo process. Schizo process. Please explain the clear difference between schizo process and the usual schizophrenia.
Yeah.
For the general reader.
Yeah. Oui, c'est pas. Je crois que ce sont des formules que je reprendrai plus maintenant. Ce sont des formules d'une époque. Au moment où il s'agissait de se démarquer vraiment de la psychanalyse et du lacanisme, qui était très puissant à l'époque où, avec Gilles Deleuze, nous avons écrit un théodique. Et nous voulions dire par là que les modèles de la psychanalyse étaient essentiellement des modèles hérités d'une certaine conception de la famille et des névroses relatives aux personnages de la famille. Ce qu'on a appelé donc une conception oedipianisante de la psychanalyse. Par opposition à cela, nous avons dit, mais il y a d'autres modes de fonctionnement. Il y a le mode de fonctionnement, d'abord, dans les sociétés précapitalistes, ou primitives, il y a le mode de fonctionnement des enfants avant leur eudipianisation, il y a le mode de fonctionnement des psychotiques, etc. Donc nous disions, il y a des processus psychotiques, mais la psychose, ça renvoie trop à la psychiatrie, et on a donc dit plutôt schizo. Il y a des processus schizo qui traversent la société, et pas seulement la psychopathologie, mais aussi les créateurs, toutes les situations où on rentre en rupture avec les significations dominantes. Alors, en ayant dit ça, les commentateurs nous ont pris au mot, photographiés, pour dire « Ah bon, vous dites donc que les schizophrènes sont des révolutionnaires ?» Nous n'avons jamais dit ça. Les schizophrènes, ce sont de pauvres gens, malheureux, emprisonnés dans des hôpitaux psychiatriques, ou emprisonnés dans des nosographies, dans des situations très aliénantes. Nous disons non, il existe un processus schizo qu'on peut quelquefois trouver un peu dans la schizophrénie, un peu dans l'enfance, un peu dans la création, un peu partout, c'est tout. Mais cette expression a engendré tellement de malentendus que je crois qu'il vaut mieux maintenant l'oublier.
In my understanding, the aim of molecular analysis is to liberate the mad flows of desire. Maybe it's a flow to desire, or mad libidinal flows. But many readers mistake this notion for supporting some lunatic and irrational.
C'est tout le contraire.
But it's a not careful reader mistake this, but it's a very important point to understand your idea.
Vous comprenez? Votre question est de la même nature que la précédente question sur le processus schizo. Nous, ce qu'avec Gilles Deleuze on a appelé désir, ça n'est pas du tout équivalent à ce que Freud a appelé pulsion ou libido. D'ailleurs, il a beaucoup changé de topic que c'était là. Nous, nous ne disons pas qu'il y a une infrastructure pulsionnelle qui va se transformer en représentant de la pulsion, en représentant, en inscription, Vorstellung, Repräsentanz. Nous disons, il existe plusieurs modes de fonctionnement pour la société, pour les machines, pour tout ce qui nous entoure, pour la vie elle-même. Il y a des modes de fonctionnement qui sont stratifiés, qui retournent à l'état initial, qui dépendent d'une sorte de principe de constance, comme on l'a appelé Freud. Et puis il y a des modes de fonctionnement que j'appellerais loin de l'équilibre, loin des équilibres stratifiés, pour reprendre une expression de Ilya Prigogine, un physicien. Pour nous, le désir, c'est à chaque fois que les équilibres antérieurs, soit de signification, soit de structure, soit de situation, sont rompus, et que cette rupture, au lieu d'entraîner une catastrophe, entraîne une prolifération, c'est vrai. Entraîne une création, engendre de nouveaux types de possibilités. C'est ça que nous attendons. Aujourd'hui, l'avenue de François Mitterrand, ça va être vécu par beaucoup de gens comme une catastrophe, comme un trou noir. Qu'est-ce que nous allons devenir? La France est perdue. Et moi, je pense au contraire que ça va être, non pas le génial président Mitterrand va sortir de sa tête des géniales formules comme feu Mao Tse-tung, non. Mais qu'il va y avoir une prolifération de possibles. Et c'est ça que j'appelle le désir. Là où tout semblait impossible, quelque chose est créé. Mais c'est toujours ça le désir. Qu'est-ce que c'est que l'amour entre un jeune homme et une jeune fille? C'est pas du tout vouloir posséder des objets partiels. C'est pas du tout vouloir prendre possession d'un territoire. Ça ne se réduit pas à une opération libidinale. C'est d'abord et avant tout le fait que dans un univers fermé, dans deux univers fermés, apparaissent des choses possibles qui, la veille, semblaient impossibles. C'est le fait que ces deux personnes, qui chacun était encerclé sur eux-mêmes, dans leur famille, dans leur moi, dans leur personne, voient apparaître quelque chose d'autre, un autre possible. Peut-être ce possible sera refermé, récupéré, repris par le couple, le mariage, etc. Peut-être. Mais l'amour, c'est quelque chose qui dit « Ah, il y a donc quelque chose d'autre de possible pour moi que la vie que je menais. » C'est ça qui entraîne à sa suite la sexualité, les caresses, les conflits, la jalousie, tout ce que vous voulez. Mais le désir, c'est d'abord ce déclenchement d'un autre monde de possible. C'est ça notre problème du désir. C'est l'économie du possible qui surgit en rupture de l'économie du déjà-là, de l'économie du stratifié, de l'économie de la répétition. Alors, cette économie du possible, c'est quelque chose qui affole les jeunes, mais c'est pas la causalité, c'est pas rationnel, mais c'est tellement rationnel, c'est qu'aujourd'hui, les physiciens parlent bien d'une thermodynamique loin de l'équilibre. Non, mais enfin, je ne veux pas développer là-dessus, mais ce qui est en question avec le désir, c'est la créativité, c'est le changement de système, les ruptures de structure. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout un objet anti-scientifique. C'est l'objet, ça peut être l'objet d'un autre type d'abord, qui sera à la fois, évidemment, pragmatique, politique, scientifique, social. On ne peut pas catégoriser. Il n'y a pas de science du possible, pas de science de la prévision du nouveau, par définition. Et pourtant, c'est quelque chose de tout à fait, quelque part, de tout à fait rationnel. Ça ne veut pas dire du tout que tout est possible, que n'importe quoi doit advenir n'importe comment, c'est tout le contraire. Ce qui est irrationnel, c'est de penser que l'état de choses actuel doit continuer. C'est ça qui est irrationnel. de penser que le Japon ou la France vont continuer sur leur lancée et que, en fonction des déterminations actuelles, on pourra faire des projections sur le futur. Ça, c'est complètement fou, c'est complètement irrationnel. Ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est d'essayer de réfléchir avec ce que vont être les mutations prodigieuses que la jeunesse japonaise va apporter au Japon, ou que les centaines de millions de jeunes qui vivent dans une misère effroyable sur la Terre vont apporter. On pense qu'ils vont rester comme ça, qu'ils vont rester dans un état d'aliénation totale, de famine dans le monde entier. Mais il est beaucoup plus rationnel de penser qu'il va se passer quelque chose, et que c'est quelque chose, moi je ne peux pas le prédire, mais je peux prédire qu'il va se passer quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça, et que nous devons tout faire pour aider cette mutation, ce quelque chose de nouveau, qui n'est inscrit ni dans la Bible, ni dans le Capital, ni dans le petit livre rouge de Mao Zedong, ni dans le programme de François Mitterrand.